Politiquement incorrect. Cube
Radio. Justement, sur les relations entre le Canada et la Chine, qui de mieux pour nous en parler que M. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, M. Saint-Jacques.
Bonjour, M. Martineau.
Est-ce que vous trouvez que le Canada est beaucoup trop complaisant envers la Chine?
Ben moi, je pense que oui, puis ça fait longtemps que je dis, parce que si on regarde la stratégie d'apaisement qu'on a poursuivie depuis l'arrestation de nos deux Canadiens, qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Mm-hmm. Nos deux Canadiens sont toujours en prison dans des conditions déplorables. On a nos exportations ont baissé de 4,5 milliards de dollars l'an passé. Cette année, après trois mois, c'est en baisse de 16%. Puis en fait, le seul gagnant dans tout ça, c'est la Chine, parce qu'elle a réussi à museler notre voix, parce que le gouvernement est très réticent à critiquer quoi que ce soit, comme votre on vient de l'entendre. Les critiques envers la gestion de la pandémie ont été très mitigées. C'est que je pense, moi, qu'il faut être plus ferme, parce que c'est le seul langage que la Chine comprend. Mais ceci étant dit, malheureusement, on n'est pas les États-Unis. Puis si on se permet de critiquer la Chine trop fort, elle va vouloir encore nous écraser. Un autre exemple de ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Australie qui avait demandé une enquête complète sur la gestion de la pandémie. Ils ont interdit, ils ont arrêté les importations de bœuf australien, ils ont mis des tarifs de 70% sur l'orge. Donc, un message très clair. Puis je pense que la solution pour le Canada, c'est de travailler avec les pays alliés pour qu'ils continuent de faire pression sur la Chine pour libérer nos deux Michael, mais aussi de travailler ensemble pour s'assurer que le système multilatéral fonctionne, parce que et qu'on applique les mêmes mesures ensemble, parce que c'est vraiment un cas où l'union fait la force, parce que si on essaie d'être dur tout seul, ils vont nous écraser comme une
mouche. Ben c'est ça, on est un petit chaton là à côté de la Chine. Puis excusez-moi l'expression, là, vous êtes un ancien ambassadeur, je devrais pas vous parler comme ça, mais ils nous tiennent par les bijoux de famille, comme on dit là.
Ben oui, puis malheureusement, on n'a pas de levier pour les influencer. On en avait un jusqu'à il y a quelques années parce qu'ils auraient beaucoup voulu signer un accord de libre-échange avec le Canada. Ça aurait été le premier pays du G7 avec qui ils auraient fait ça, mais c'est disparu parce que, bien sûr, le nouvel accord Canada-Mexique-États-Unis interdit ça à toute fin pratique. C'est que là, pour eux, on est plus intéressant. On est leur 21e partenaire commercial. Et puis, ils ont oublié toute l'assistance qu'on a apportée au pays. L'ACDI a dépensé plus d'un milliard de dollars.
Ah oui.
Une période où ça allait très bien, mais avec Xi Jinping, depuis que Xi Jinping est devenu a pris le contrôle en novembre 2012, on assiste à une Chine qui est devenue beaucoup plus arrogante, puis assertive, et qui n'hésite pas à punir les pays qui font pas ce qu'elle demande.
Les deux Canadiens là, ont été arrêtés 9 jours après l'arrestation à Vancouver là, de la fille de Huawei, du fondateur de Huawei. Il y a un lien direct entre ça. Là. Et évidemment, la Chine refuse de le dire, mais quoi, ils sont accusés d'espionnage. Est-ce que ces accusations-là ont un certain fondement ou la Chine veut seulement se venger?
Ben, en fait, l'ambassadeur chinois au Canada, Chong Pei-Hu, s'est échappé la semaine passée parce qu'il a admis que c'était l'arrestation était liée au cas de Mme Meng. Puis, en fait, la loi sur la sécurité nationale en Chine est tellement vague que c'est très facile de trouver quelqu'un coupable. Puis, ce que la Chine fait, c'est qu'elle surveille beaucoup d'étrangers. Dans le cas de M. Spavor, ce qui les dérangeait, c'est que c'est un ami personnel de Kim Jong-un, le leader nord-coréen. C'est lui qui avait organisé la visite du basketballeur américain, flamboyant, il y a quelques années. Et dans le cas de Michael Kovrig, c'est quelqu'un qui s'intéressait, qui travaillait maintenant, là, il est en congé du gouvernement, puis il travaillait pour une organisation internationale, puis il s'intéressait aux relations de la Chine avec la Russie, puis avec le Japon, puis il rencontrait des gens, puis il posait des questions. C'est très facile de prétendre que c'était un espion, mais comme j'ai toujours dit, en Chine, il n'y a pas de coïncidence. Et puis, l'arrestation de ces deux Canadiens-là, c'était pour mettre de la pression sur le gouvernement canadien. Parce que j'ai vécu, moi, la même chose quand j'étais ambassadeur. À la demande des Américains, on avait arrêté un espion chinois qui était à Vancouver, un dénommé Su Bin.
OK.
Une semaine plus tard, ils ont arrêté un couple de missionnaires canadiens, Kevin et Julia Garrett. Puis, quand j'allais au ministère des Affaires étrangères pour dire de les libérer, écoutez, c'était des missionnaires, c'était des gens qui faisaient des bonnes œuvres. Ils me disaient, ben écoutez, si vous retournez, M. Su Bin, on va faire preuve de bonne volonté.
OK, donc c'est des otages, finalement, là, en disant, là, ils veulent, ils prennent ces gens-là en otage pour faire pression sur le Canada.
Tout à fait, tout à fait.
Incroyable.
C'est pour ça que, j'entendais encore là, Eddie Goldenberg, l'ancien conseiller de M. Chrétien, qui disait, il faut négocier le retour de Mme Meng pour le retour de nos deux Canadiens. Ben là, ça serait de célébrer le succès de leur politique de prendre des otages. Puis moi, je pense que ça serait tout à fait contraire à nos valeurs. On peut pas céder à ce genre de chantage-là.
C'est ça, c'est toujours la même question qui se pose. Par exemple, lorsqu'on a vendu des tanks à l'Arabie Saoudite, est-ce qu'on fait affaire à des pays qui partagent pas nos valeurs ou on ne fait pas affaire avec eux? En même temps, il y a des gens qui disent que c'est très angélique, très idéaliste de dire on veut rien savoir de l'Arabie Saoudite, on veut rien savoir de la Chine, qu'on a besoin d'eux, que le monde est hyper connecté, que veut pas, il faut se pincer le nez et faire des affaires avec eux. Il y en a d'autres qui disent non, faut défendre nos valeurs et faut être cohérent. Vous en pensez quoi?
Ben là-dessus, j'ajouterais un élément. Parce que dans certains cas, il y a une question qui se pose, là, comme dans le cas de l'Arabie Saoudite, quelle est la vraie utilisation de ces véhicules-là? Mais aussi, il y a un élément nouveau dans le cas de la Chine, parce que la Chine, maintenant, sous Xi Jinping, veut faire la promotion de son modèle sur la scène mondiale. Puis, en fait, le risque, c'est pas que nous qui allons les changer, c'est eux qui sont en train de nous changer. Mmh. Et je donnerai un exemple de ça. Les cas d'interférence qu'on a connus au cours des dernières années où il y a eu des interventions pour empêcher qu'il y ait un débat sur, par exemple, qu'est-ce qui se passe à Hong Kong ou au Xinjiang, sur un campus universitaire où une autre université où il y avait un institut Confucius financé par la Chine, où l'université se faisait dire si cet événement-là a lieu, on coupe le financement à l'institut. Ça fait que ça soulève une question beaucoup plus fondamentale. Puis moi, je pense que ça devrait être la base de notre réévaluation de notre relation avec la Chine, c'est quelles sont nos valeurs fondamentale.
Ben, tout à fait. Mais j'aime bien la phrase que vous avez utilisée. C'est-à-dire que nous autres, on se dit, on va les changer, on va faire des affaires avec eux. L'Occident va faire des affaires avec eux, puis on va changer la Chine. Non, c'est eux qui sont en train de nous changer, nous. Et, écoutez, quand vous étiez ambassadeur, du Canada en Chine, ça devait être passionnant, là, parce que c'est quand même une culture millénaire. C'est un grand pays. Est-ce que vous vous sentiez écouté? Espionné? Pensez-vous ça?
Constamment. Puis,
c'est vrai?
Je vais vous donner un exemple drôle. Parce que j'ai vécu 13 ans en tout en Chine. La deuxième fois qu'on était là, de 95 à 99, ma fille cadette, Élise, qui devait avoir à peu près 12-13 ans à l'époque, elle faisait ses devoirs avec une amie au téléphone. Puis naturellement, ça prenait des heures. Puis là, après à peu près une heure et demie, elles arrivent toutes les deux à leur leçon d'espagnol, c'est qu'elles se mettent à parler en espagnol. Puis là, une voix se fait entendre, continue à parler en français, sinon la ligne va être coupée. Puis quand je suis revenu à la maison, elle m'avait dit, papa, tu croiras jamais qu'est-ce qui est arrivé. Puis elle me raconte ça, ben j'ai dit, ben non, je te l'ai dit, ils nous écoutent tout le temps. Hein? Ils veulent savoir si je suis revenu sous encore hier soir, si j'ai battu ta mère. Puis, le pauvre gars qui écoutait la conversation, il n'y avait pas son ami qui parle espagnol pour entendre qu'est-ce que vous disiez. Et puis, moi, j'ai eu beaucoup d'autres exemples comme ça, où c'était clair qu'ils avaient intercepté un message qui me demandait d'aller faire une démarche au ministère des Affaires étrangères, ou que ils étaient déjà au courant. Donc,
c'est ça. Mais comme vous dites, là, ils écoutent pour savoir les faiblesses de la personne pour pouvoir le faire chanter.
Oui, puis ils montent des dossiers, puis c'est un art pour eux. Ils sont très efficaces, ce qui veut dire que ça complique les choses quand on est diplomate là-bas, puis qu'on sait que les conversations sont écoutées. Puis c'était toujours un message aux politiques qui visitaient, on disait faites attention parce que toutes vos conversations sont écoutées. Puis en fait, ça s'applique aussi au Canada parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont imprudents puis qui ont des conversations sur leur cellulaire qui sont
qui devraient pas
être faites sur des appareils cellulaires parce que c'est très facilement interceptable. Puis il y a eu un cas il y a quelques années à Ottawa où il y avait eu justement on avait découvert qu'il y avait des antennes, puis personne ne savait c'est qui avait installé ça. Moi, je soupçonne que c'était probablement relié à l'ambassade de Chine.
Alain Perfit, je crois, il y a quelques années, un intellectuel français avait écrit dans les années 60, « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. » Ben la Chine s'est éveillée et le monde, effectivement, tremble. Monsieur Saint-Jean, je rêverais de faire une super longue entrevue avec vous. Moi, je suis passionné par la vie d'ambassadeur, surtout dans des pays comme en Chine. Ça doit être passionnant. On dirait que c'est un roman de John le Carré. J'espère qu'on va se reparler bientôt. Merci, Monsieur Saint-Jacques.
Merci et bonne journée.
Merci. Guy Saint-Jean, ancien ambassadeur du Canada en Chine.